Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardeau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
5 ans seulement, 5 ans déjà, comme disait l'autre. Et oui, car c'est notre 5e et nouvelle saison de Billets d'Europe, chronique hebdomadaire sur l'Europe avec la... Alors attention, la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct Limousin. Et vous avez changé de nom, Daniel.
Et oui, Jean-François, c'est bien observé, bien entendu. Vous avez l'oreille fine. Hein. C'est la Maison de l'Europe en Limousin, Centre d'information Europe Direct, qui s'intitule dorénavant Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Alors évidemment, la différence peut paraître mineure. Eh bien, elle est néanmoins importante. Elle correspond au renouvellement de la labellisation Europe Direct octroyée au printemps 2021 par la Commission de Bruxelles, donc, à la Maison de l'Europe, ce qui n'était pas gagné d'avance, compte tenu du nombre de candidats. Pour la petite histoire, nous sommes 424 centres Europe Direct en Europe, Jean-François, dont une grosse quarantaine en France. Vous vous réjouissez ?
Mazette.
Bien sûr. Alors, pour notre maison, le label Europe Direct est un atout majeur. Bruxelles fournit des publications, du matériel pour les manifestations, vous savez, les goodies et tout ce que vous voudrez.
Les mails, etc.
Voilà, des livres, des informations, ça c'est peut-être plus intéressant encore que des communiqués de presse, etc. Propose des formations et contribue pour 5 ans au financement direct du fonctionnement de notre structure. Ce label fait de notre maison, j'ouvre les guillemets, le visage et la voix de l'Europe, mais aussi l'oreille de la Commission en région, et ce, afin de faire remonter à Bruxelles les idées, les suggestions, les inquiétudes, les attentes, les critiques des citoyens vis-à-vis de l'Europe. Et RTF, en nous ouvrant son micro, nous aide à remplir nos missions. Messieurs, soyez-en remerciés.
2021 n'a pas été enthousiasmant en Europe. Le variant Delta, les inondations, les incendies, une météorologie capricieuse et imprévisible. Alors, s'agissant des affaires de l'Union, est-ce qu'on a un bilan plus réjouissant ?
Eh bien, je le crois, Jean-François, je le crois, avec plusieurs actes qui marquent une volonté de renforcer la solidarité européenne de façon nette. Je vous les donne. Le 7 et le 8 mai, lors du sommet social de Porto, le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, a adopté le plan d'action de la Commission pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, avec notamment la réalisation de 3 objectifs ambitieux pour 2030, un emploi pour au moins 78% des personnes âgées de 20 à 64 ans en Europe, une participation d'au moins 60% des adultes à des activités de formation chaque année, une diminution d'au moins 15 millions de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale, dont au moins 5 millions d'enfants, une préoccupation sociale donc tout à fait bienvenue. Le 25 juin 2021, après plusieurs mois d'âpres négociations, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord politique informel sur la politique agricole commune. Alors certes, cela ne constitue qu'une étape dans la réforme de la PAC 23, 2023. Mais en arrêtant en codécision, en co-législation, donc en codécision les grands principes, les deux institutions ouvrent la voie à une adoption d'ici octobre 2021. Le 14 juillet, la Commission a présenté son paquet climatique qui doit permettre à l'Union de remplir l'objectif de réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre, les GES, et ce d'ici à 2030. Elle deviendra, si l'Union européenne deviendra le premier continent à parvenir à la neutralité climatique d'ici à 2050. Pour les 27 États membres qui, dans la lancée des accords de Paris de 2015, se sont engagés, c'est le temps de l'action. Alors, nous aurons l'occasion, dans de prochaines chroniques, d'analyser ce plan, les différentes mesures qu'il comporte et sa faisabilité. Enfin, début août, ont été effectués les premiers versements des fonds du plan de relance européen, le fameux New Generation EU, alloué aux États membres dont le plan national pour la reprise et la résilience, c'est son nom, a été évalué par la Commission et validé par le Conseil. Ainsi, après le Portugal, la Belgique et le Luxembourg, la France a, le 19 août, touché une première enveloppe de plus de 5 milliards d'euros.
Alors, quels sont les grands dossiers de cette rentrée européenne ?
Alors, il y en a plusieurs, dont certains inattendus, du moins dans leur ampleur. Ainsi, le contexte international très troublé fait-il ressurgir la question migratoire en Europe ? En Biélorussie, l'ouverture et la facilitation des passages de migrants par le régime de Loukachenko provoquent une crispation dans les pays voisins, Pologne, Lituanie. En Afghanistan, la prise du pouvoir des talibans laisse craindre un exode massif des réfugiés. Et voilà le spectre de 2015 qui réapparaît avec la division des pays de l'UE sur l'accueil des réfugiés. Il me semble bien que le pontife en a parlé en Hongrie.
Oui, à la grande colère, je crois, de Viktor Orban, ce qui est toujours agréable de mettre Viktor Orban en colère. Mais enfin, bref.
Bah, surtout que d'une colère comme ça pourrait déboucher un accident cardiaque.
On
ne va pas dire ça.
C'est pas bien.
Plusieurs pays ont d'ores et déjà déclaré qu'ils excluaient tout arrivé sur leur sol. Parmi eux, la Slovénie, qui assure la présidence du Conseil jusqu'à la fin de l'année. Dans plusieurs États membres vont se dérouler des scrutins d'importance pour l'avenir de l'Union. Alors bien sûr, on en parle fin septembre, les élections législatives allemandes qui vont régler la succession d'Angela Merkel à la chancellerie. Début octobre, les Tchèques éliront leurs députés et décideront du sort du Premier ministre populiste sortant, dont vous connaissez le nom, bien sûr, Jean-François. Il s'appelle Babiš.
Ben
voilà, hein,
ah oui.
Ça ne s'invente pas. Or, la République tchèque, hein, ne l'oublions pas, succédera à la France pour la présidence du Conseil en 2022. Alors, s'agissant de la relation de l'UE avec les pays tiers, plusieurs dossiers posent problème. Avec le Royaume-Uni, c'est l'application de l'accord post-Brexit par les autorités britanniques qui est en cause, puisque au-delà de la pêche, hein, on voit les Britanniques traîner les pieds pour appliquer certaines dispositions du protocole nord-irlandais, voire le remettre en cause, notamment les contrôles des biens en mer d'Irlande. Avec la Russie, la relation très dégradée depuis l'annexion russe de la Crimée et l'appui aux séparatistes ukrainiens du Donbass et le soutien apporté au régime biélorusse, sans oublier la cyberpropagande, hein, génère beaucoup d'inquiétudes dans les pays baltes et en Pologne. L'achèvement de la construction du gazoduc russe Nord Stream 2, hein, 2 a provoqué dans ces pays beaucoup d'amertume, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec le reste du monde, se pose la question de la place et du rôle de l'Union dans le jeu mondial et principalement dans le bras de fer là, qui est engagé entre États-Unis et Chine. Je crois que Biden en a parlé avec Xi Jinping. Avec le départ des États-Unis d'Afghanistan dans les conditions que l'on sait, l'Union européenne doit s'interroger une nouvelle fois sur son autonomie stratégique. Alors la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est ouverte en mai et qui s'achèvera au printemps 2022 peut permettre, espérons-le, de clarifier et de relancer le projet européen.